Bonjour tout le monde. Vous avez remarqué, je vais avoir un petit accent du sud, le sud de la France, Toulouse. Quels sont ceux qui sont déjà venus à Toulouse, la ville rose? Oh, merveilleux. Même ma femme est là, hein, c'est ça, elle lève la main. Plusieurs sont venus lors des campagnes d'évangélisation, même accompagnés de Jacques Alexandrian, notre cher frère, n'est-ce pas? Et on a tellement de bons souvenirs et merci à votre Église qui nous a soutenus un certain temps comme missionnaires quand on est parti du Québec. J'étais pasteur à Beauport. On a, par la grâce de Dieu, dans le ministère, vu l'Église grandir. Après bien des difficultés, je dirais, cette Église qui avait souffert de différentes divisions, elle a connu une croissance. On est arrivé là, il y avait 14 personnes. On a quitté l'Église, il y avait un beau bâtiment magnifique de 900 mètres carrés, 9000 pieds carrés, pour ceux qui sont encore en pieds carrés. Et par la grâce de Dieu, récemment, ils ont fait l'inauguration de l'extension du bâtiment en doublant la surface, dans 900 mètres carrés supplémentaires. Allez voir le site et on a hâte d'aller à l'église et prêcher, rencontrer les frères et sœurs. Car je dis à Jean-Élie ce matin, on a deux amours, même si on est en France, on a l'amour du Québec qui est resté toujours en nous. Je pense que je suis revenu peut-être 20 fois à Québec depuis qu'on a quitté Beauport pour différentes raisons. Et puis, alors c'est vrai, c'est ajouter la Martinique. Alain Choiquet, l'évangéliste, venait souvent dans notre église à Québec et il avait un tel amour pour la Martinique que j'ai dit, mais il faut que j'aille un jour en Martinique. Et c'est arrivé et nous y sommes allés 4-5 fois, Guyane, Guadeloupe, Martinique, etc. Et donc on s'est réjouis de l'église là-bas. Et récemment, j'étais en Guyane, à Martinique, pour faire un séminaire sur la prière. Alors voilà, j'ai toujours presque le même âge. J'essaye de penser que la vieillesse, c'est d'avoir 20 ans plus longtemps que les autres. Et savez-vous, ça marche en partie. Et oui, on est en retraite active. J'étais président d'une union d'église qui a grandi, une église qui a grandi, puis on a laissé la place à des plus jeunes. Et c'est pas toujours facile, n'est-ce pas, de laisser ses places, mais on a un ministère itinérant. Et merci Seigneur, on a pu venir ici. Et mon épouse est américaine, elle a sa famille aux États-Unis. On a été bien accueillis par Jean-Pierre et Monique et on a pu aller visiter la famille de Louis. Elle a une cousine germaine qui a perdu son mari, qui avait vraiment besoin d'être entourée avec amour. Et là, on remercie le Seigneur de cette possibilité d'avoir été jusqu'à Syracuse. Je ne sais pas si vous connaissez New York. Voilà. Bon, après cette brève introduction, donc je suis un peu plus âgé qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais 72 ans. Donc, vous voyez, vous pouvez ajouter, c'est simple de connaître mon âge. Hein? Et il y a 2 ans, on avait 13 ou 14 petits-enfants. Mais ça a changé. On en a 16 maintenant. Par contre, on a toujours 6 enfants, 5 garçons, une fille après 5 garçons. Ça n'a pas changé. Et on a un 17e petit-enfant en route. Ça veut dire que la famille s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. D'ailleurs, on vient de chanter un chant, notre fils Philippe. Alors Philippe, notre fils est pasteur à Villeurbanne-Cussé, il est musicien, il fait des CD, des livres. Alors à une époque, on disait, oui, Philippe, c'est le fils de Michel. Et maintenant, c'est exactement l'inverse, vous voyez, les nouvelles générations. Ah oui, Philippe, Michel, oui, c'est le papa de Philippe. On est reconnu à l'inverse, les générations s'améliorent comme ça. Voilà, donc il y a des saisons dans la vie. Voilà, après cette brève introduction, merci de votre invitation. Merci à votre pasteur qui nous accueille dans cette église et nous bénissons le Seigneur pour sa parole et j'aimerais prier, si vous permettez, ensemble avec vous. Seigneur, donne-nous des cœurs tendres, donne-nous des cœurs attentifs, donne-nous des cœurs enseignables, aide-nous à ne pas nous entêter dans nos vies, à marcher humblement, à regarder à la croix. À nous laisser briser par ta présence pour que Christ soit vu en nous. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Permets, Seigneur, que notre vie fasse une différence, et notamment notre vie de prière. Et l'appel que tu lances à l'Église de prier, d'être à genoux, d'intercéder pour le monde perdu, pour l'Église persécutée, pour ceux qui souffrent. qui ont faim et soif aussi de justice. Seigneur Père, nous te prions de nous visiter ce matin. Nous te le demandons. Amen. En fait, comment être insensible à ce passage d'Actes 12 où on voit l'Église en train de prier et de façon remarquablement efficace, puisque sa prière en tant qu'Église a été exaucée. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin, est-ce que votre Église a une vie de prière puissante? Est-ce que vous voyez des miracles spirituels parce que votre Église est à genoux? Est-ce que votre vie de prière personnelle est-elle efficace? Est-ce que vous faites vraiment un bilan de l'exaucement de vos prières ou non-exaucement? À Matthieu 6, Jésus a enseigné les disciples à prier. Il y a une bonne façon de prier, une mauvaise façon de prier. Et quand il enseigne le Notre Père, c'est vraiment lié à une relation intime avec Dieu, Notre Père qui est aux cieux, celui qui est tout-puissant. El Shaddai, celui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que nous prenons le temps de passer du temps avec Dieu pour prier? Il y a tellement de prières vaines qui ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont pas faites dans la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu est un Père qui veut exaucer nos prières. Nous devons prendre le temps d'être en communion avec Dieu pour être exaucés. Nous serons peut-être étonnés que beaucoup de nos prières, pourtant données avec un certain zèle, n'auront pas de résultats, même célestes, parce qu'elles n'auront pas été faites dans la présence de Dieu. Il y a toute une différence de prier dans la présence de Dieu ou de prier pour prier. Et nous voyons dans cet exemple ici que l'Église a prié de façon efficace. Qui aurait imaginé que Pierre aurait pu être délivré de cette façon-là? C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Adolphe Monod, qui était un orateur au XIXe siècle, très connu en France, il prêchait 2-3 fois par jour, et un jour il a écrit, alors qu'il était mourant, ses adieux sur son lit de mort. Et il parlait de la prédication, il disait, oui, la prédication de la croix, ô croix de la prédication de la croix. Mais il ajoutait aussi un mot en disant qu'à la fin de sa vie, il avait un profond regret de n'avoir pas fait de la prière une priorité dans sa vie. Un homme de Dieu remarquable qui a porté du fruit éternel, mais qui à la fin de sa vie, en faisant le constat de sa vie, trouvait devant Dieu, en étant conscient qu'il allait être bientôt dans la présence de Dieu, visible à ce moment-là, il n'avait pas assez prié dans sa vie. William Booth disait, nous n'avons qu'une seule vie à vivre, pourquoi allez-vous la vivre? Et pensons réellement à faire le bilan de notre vie de prière pour savoir si réellement nous prions et si nous prions de façon efficace. Récemment, j'étais en Turquie assistant à un symposium de théologie et à une pastorale qui réunissait des différents responsables d'unions d'église en Europe, au Proche-Orient. Et à un moment donné, il y avait une salle particulière où les pasteurs russes, les pasteurs ukrainiens se sont rassemblés pour prier et se demander pardon. Je me souviens en Jordanie avoir vu un pasteur israélien de Tel Aviv venir demander pardon au pasteur arabe qui était là. Il leur a lavé les pieds. Il y a un pasteur allemand qui a lavé les pieds du pasteur juif. Et il y avait une réconciliation tellement puissante ce jour-là. L'assemblée s'est mise à pleurer de voir une telle réconciliation. Et on doit prier pour la réconciliation entre l'Ukraine et la Russie, et notamment les églises de Russie et d'Ukraine, qui vivent des moments très difficiles. La prière est efficace, bien-aimé. Billy Graham a dit ceci, un chrétien sans prière est un chrétien impuissant. Alors par analogie, en ajoutant peut-être une application toute simple de cette citation de Billy Graham, une église sans prière est une église impuissante. Vous avez peut-être un père, une mère, un converti, un frère, une sœur, un enfant. Comment Dieu peut-il intervenir si ce n'est par la prière? Il y a un temps où il n'y a plus que le recours à la prière. Nous avions un fils qui commençait à dévier, les enfants se sont convertis jeunes et commençaient à fréquenter des mauvaises fréquentations. Et je me souviens un jour, je me suis mis à genoux au pied de mon lit, j'ai crié Dieu, à Dieu de tout mon être, comme s'il ne pouvait pas me refuser cette prière, sauve notre fils. Et il est allé dans un camp, le camp des boulots que vous connaissez, et il s'est converti. Et il a dit qu'il sentait la présence du diable dans ce camp, sur lui. À un moment donné, il a compris qu'il devait se convertir. Et on a été exaucés, ma femme et moi. Mais parfois, il y a des larmes. John Knox, un grand revivaliste, prédicateur en Écosse, a dit un jour, en agonie devant Dieu, « Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. » Il a un moment donné dans le cœur où il peut y avoir une contrainte, une agonie qui pousse à la prière comme un cri, comme si Dieu ne pouvait pas refuser. Et si nous n'avons pas de telles prières, alors comment peut-on vivre une vie d'église intense à la gloire de Dieu pour le salut des âmes, l'unité du Saint-Esprit? Aujourd'hui, on fait de la Pentecôte. Merci Seigneur pour son esprit. Qui serions-nous si nous n'avions pas l'Esprit de Dieu en nous pour glorifier Dieu? Alors je vais essayer de passer rapidement le contexte ici, parce que quand même il est important de voir dans ce texte que c'est la cinquième persécution de l'Église. Il y a donc d'autres persécutions, et j'ai fait un tableau ici qui montre différents passages. Alors je vais devoir passer assez rapidement pour pas trop prolonger, le message n'est pas au sujet de l'Église persécutée, mais le contexte ici, c'est que Pierre a été arrêté et Jacques, le frère de l'apôtre Jean, a été exécuté. Et Pierre est en prison, et lui, il dort, je ne sais pas si vous imaginez, il va certainement être tué. Hérode attend un petit peu pour plaire aux Juifs, que ce soit le bon moment, et il est entouré de 16 soldats, imaginez, et lui, il dort dans la paix, il est enchaîné. Ça, c'est le miracle de Dieu, de la prière aussi. Mais la Bible dit que l'Église ne cessait de prier. Alors, en Actes chapitre 4, tout d'abord, on voit après que le boiteux a été guéri, que finalement Pierre et Jean sont mis en prison, et il y a des miracles qui se passent. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ 5000 hommes. Remarquons que dans les temps de persécution, l'Église grandit. Et c'est vrai que dans nos vies aussi, quand c'est des moments d'épreuve, où on apprend à grandir. Et parfois, j'ai un message qui s'appelle « Sauvé pour servir, brisé pour briller, vaincu pour vaincre ». Et quand on est brisé, qu'on est vaincu, oui, Christ règne en nous. Mais est-ce qu'on le désire vraiment? Et l'Église primitive a été persécutée, mais malgré ça, il y avait une croissance véritable. Et on voit au chapitre 4 et finalement au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois Jésus, vois leurs menaces » et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La mission de Dieu à l'effet de toutes les nations et disciples est impossible sans être remplis du Saint-Esprit. La mission de Dieu s'accomplit lorsque l'Église est remplie du Saint-Esprit. En ce jour, on pourrait se poser la question, suis-je rempli du Saint-Esprit? Est-ce que ma vie, mon Église porte le fruit de l'Esprit en abondance, selon le plan de Dieu? Ainsi, par la prière des disciples, malgré la persécution, la croissance s'est faite au sein de l'Église, elle n'a jamais cessé. Puis au chapitre 5, on voit que c'est les 12 apôtres qui sont mis en prison. Et finalement, il y a un ange qui les délivre, à croire que c'était la mode de l'Église primitive, d'être délivré par les anges. Vous avez déjà été délivré par un ange? Moi pas. Moi pas. Mais en tout cas, le Seigneur est puissant. Et finalement, ils témoignent devant le Sanhédrin, ils sont battus de verge, mais joyeux, imaginez cela. Ils sont persécutés, mais ils sont dans la joie. Et puis on voit encore une fois la croissance de l'Église. Et puis, il y a Étienne qui donne un message au Sanhédrin extraordinaire qui résume le salut de Dieu au travers de l'Ancien Testament. Oh, Étienne, quel personnage, je ne sais pas vous. Il est finalement lapidé. Il voit le Seigneur Jésus, les yeux ouverts, alors qu'on lui envoie des pierres. Et puis, il pardonne de la même façon que Jésus. Père, ne leur impute pas ce péché, comme Jésus a dit à la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Quel témoignage, Étienne. Et suite à cela, il y a la persécution de l'Église, où même Paul participe. Il y a une grande persécution. L'Église est dispersée. La Bible dit, vous serez mes témoins, où ? En Jérusalem, en Judée. Et c'est par la persécution que Dieu a accompli son plan. Et l'Église se répand en Judée, en Samarie, finalement, prêche, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc on est ici, à la cinquième persécution, en Acte 12. Et il faut s'attendre à ce qu'on soit persécuté. Celui qui voudra vivre pieusement, Jésus-Christ, sera persécuté. Il y a un prix à payer. Et j'ai marqué une diapo aussi, le fameux verset, « Mais vous recevrez une puissance, donc une puissance, hein, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » En fait, le mot grec ici pour « témoin » a donné le mot français « martyr ». Oui, le sang des martyrs, a dit Tertullien, est une semence des chrétiens. Notre fils Jean a été missionnaire pendant 10 ans au Mali, comme traducteur de la Bible. Il a fait Moody, est allé à Wheaton College, à Dallas. Merci Seigneur, toutes ces années d'études, pour être traducteur dans un pays, pour un peuple, de 60 000 ou 70 000 personnes qui ne savent pas lire et écrire, et qui sont tous musulmans. Il a commencé à apprendre le bambara, il prêche en bambara, il a appris la langue de ce peuple, et pendant 10 ans, il a traduit la Bible. Il a traduit le livre d'Exode, et c'est l'imam de la mosquée voisine de chez lui qui a fait la voix de Moïse, parce que tout est en audio, parce que les gens ne savent pas lire et écrire. Et il a persévéré. 27 membres de la mosquée ont fait les voix du livre d'Exode. Il a traduit les béatitudes. Et c'est l'imam qui a envoyé toutes ces audios partout, parce que les gens ont des téléphones. Et finalement, juste avant qu'ils soient obligés de partir à cause du terrorisme qui existe au Mali, allé en Côte d'Ivoire, son traducteur s'est converti, celui qui l'aidait. Il a eu un rêve la nuit. Il a vu Jésus dans son rêve. Il s'est converti. Et mon fils, au téléphone, pleurait de devoir quitter le Mali parce qu'il aimait tellement ce peuple. Il s'est donné tellement dans son cœur pour sauver ce peuple. Et de laisser cet homme seul, converti, c'était pour lui quelque chose de très difficile. Et cet homme est allé voir sa famille musulmane, et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de le tuer et l'empoisonner. Il y a un prix à payer lorsqu'on est chrétien. Je me souviens avoir entendu le témoignage de pasteur en Jordanie, alors qu'il y avait la guerre civile, cette guerre terrible, n'est-ce pas? Et les pasteurs syriens ont dit ceci, ce que j'ai entendu. Toutes les ambassades ont fermé, tous les ambassadeurs ont quitté la Syrie. Mais nous, nous sommes restés parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Pas le prix à payer. Ils se sont occupés des gens handicapés, des personnes âgées, des malades mentaux. Et les églises sont multipliées, ont grandi à cause de l'amour de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et tout cela est possible, bien-aimé, par la puissance de la prière. Combien de temps passons-nous réellement dans la prière? Alors, j'ai fait une statistique ici, j'ai relevé la statistique de portes ouvertes, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, parfois, je suis brisé de voir que nos églises ne prient pas pour les gens persécutés. Il n'y a jamais eu dans le monde autant de persécution, de chrétiens persécutés qu'aujourd'hui. Souvenez-vous de ceux qui sont prisonniers comme étant vous-même prisonniers. Donc si on est sensible à ce verset, on ne va pas être insensible à vouloir soutenir et aider l'Église persécutée. Aujourd'hui, les chiffres sont là. En 2025, il y a plus de 380 millions de chrétiens qui sont exposés à des persécutions et des discriminations. Cela veut dire un chrétien sur 7 dans le monde. Il y a eu 4476 chrétiens tués, dont 3100 au Nigeria. C'est terrible comme certains pays africains aujourd'hui, malheureusement, changent de politique, en tout cas, épousent vraiment des... Et il y a un mouvement dans les pays africains aujourd'hui qui bouleverse et qui tue. Alors, les terroristes, je m'entends, bien sûr. Hein, et qui tue les enfants, viole les femmes, brûle les églises, notamment au Nigeria. Il y a eu 7600 églises ciblées, donc 4000 au Rwanda, 4744 chrétiens détenus, dont 2000 en Inde, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous invite à regarder le site de Portes Ouvertes et à prier à genoux, parce que la prière est d'une grande efficacité. Notre église à Toulouse, à un moment donné, avait l'habitude d'avoir toute une liste de prières, et il y avait beaucoup de sujets. On se divisait, d'abord on priait toujours pour l'église persécutée, et après on prenait un temps pour la vie de l'église ou autre chose, et un jour il y a un frère qui animait la réunion, qui a sorti le papier d'un an passé. Et vous savez quoi? Il nous a dit tous les sujets. Il y en avait 60, 70, tous les sujets étaient sur cette feuille, il nous a montré la feuille, ont été exaucés. C'est fou. Nous prions et nous oublions de remercier Dieu pour l'exaucement de nos prières. Et nous avions prié notamment pour une femme qui avait été prisonnière à cause de sa foi et qui avait été libérée. La prière du juste est une grande efficace. Est-ce que nous le croyons, bien-aimé? Alors Hérode, lui, pour être agréable aux Juifs, il a fait prisonnier quelques membres. Et c'est une des ruses du diable, n'est-ce pas? C'est bien sûr, Satan attaque l'Église en général, mais il s'en prend particulièrement aux leaders. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il faut prier pour ceux qui nous dirigent. Et dans certains pays au monde aujourd'hui, c'est la cible des pays. Je ne vais pas citer des pays, mais vous comprenez qu'il y a des gens, des leaders d'Église qui sont arrêtés. Bon, juste un exemple en Algérie, parce qu'on soutient une dame qui est missionnaire en Algérie, qui est en France, mais qui visite régulièrement l'Algérie. Les églises sont fermées, les pasteurs sont arrêtés. Alors il y a de quoi prier. Et Hérode, est comme en Algérie, où on attaque les leaders, on les met en prison, les responsables d'église, les pasteurs, etc. Hérode fait la même chose. Et il exécute Jean, le frère de Jean. Et puis Pierre est en prison. Et là, on voit la souveraineté de Dieu, parce qu'Hérode dit, la fête des pains sans levain, c'est une fête juive tellement populaire qu'il n'y aura pas autant de succès que l'exécution de Jacques, alors on va attendre un petit peu. Oui, mais attendre. Lui, il pense qu'il est maître, n'est-ce pas, au contrôle. Mais qui est au contrôle de nos vies? Qui est au contrôle du monde? Disons le livre de Daniel, ça nous rassure en ce moment, n'est-ce pas? Dieu est souverain. Les pays sont dans la main de Dieu. Il est le prince de ce monde, mais Dieu lui donne des limites. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui est maître de notre avenir et de notre planète. Alors il fait arrêter donc Pierre, et finalement il le met en prison. Et que peut faire l'Église? Voilà la réponse, et j'espère que j'aurai assez de temps pour arriver à ce que je veux vous dire ce matin aussi. C'est qu'en fait, l'Église, comme dans nos vies, à un moment donné, on n'a qu'un seul moyen de voir les choses changer, c'est la prière. Vous avez un problème dans votre vie? Bon, vous pouvez consulter beaucoup de monde, mais prenez le temps de consulter Dieu. Peut-être que Dieu a quelque chose à vous dire, particulièrement au travers de sa parole. Une église, toute église a ses défis, n'est-ce pas? Et gloire à Dieu pour votre église. Prions, prions, prions. Ici, on a en présence le pouvoir temporel, Hérode, la puissance de Rome. Et on a une église fragilisé par 5 persécutions à vue humaine, mais vaincu, mais à la fois forte, parce que prêt à mourir pour Christ, son Dieu. Son salut. Quelle va être la réponse de Dieu? Est-ce que le monde est plus puissant que la prière puissante de l'Église? Non! C'est l'Église qui, en prière, a la puissance de Dieu qui lui est accordée. Et c'est ce qui se passe dans ce passage. Et on va rapidement, si vous permettez, l'analyser. On va voir ce que c'est que la prière puissante. C'est tout d'abord une prière qui s'adresse à Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est aussi une prière caractérisée par son intensité. Ce n'est pas une prière du bout des lèvres. C'est une prière profonde et c'est une prière qui mobilise toute l'Église. Alors rapidement, recordons, si vous voulez bien, ces 3 points. C'est une prière qui s'adresse à Dieu. Mais vous allez me dire, mais est-ce que nos prières ne sont pas toujours adressées à Dieu? Pas toujours. Alors, je vous donne une anecdote. Bon, Je ne sais pas si c'est une bonne illustration. Vous savez, Spurgeon était un peu sarcastique. Et un jour, dans une grande assemblée où il devait prêcher, l'animateur, le président du culte, a demandé à quelqu'un de prier. Et le frère priait tellement longtemps que Spurgeon commençait à dire, mais il prend tout mon temps là. Alors il s'est levé et il a dit, pendant que notre frère termine sa prière, prenons le cantique 655. Moi, je n'aurais pas osé faire ça, n'est-ce pas? Mais il y a un temps pour tout. Mais il y a un temps de prière où on doit être vraiment s'assurer qu'on ne prie pas pour se faire entendre des autres. Et parfois, dans nos réunions de prière, il y a parfois un langage de patois. On dirait que les prières se ressemblent tellement, on ne sait pas si on est vraiment en communion avec Dieu le Père, un Dieu saint, un Dieu tout-puissant. On a besoin d'être renouvelé dans notre prière. Les prières redites. Moi, j'étais catholique, j'étais brancardier à Lourdes. Et je me souviens, je montais le chemin de croix, je disais « Dis, je vous salue à chaque marche » et arrivé à un palier, enfin, le Notre Père. Et c'était long, le chemin de croix. Et j'étais sincère. Mais je peux vous dire que j'étais sincèrement perdu. Et pourtant, je priais sincèrement. Et tous les soirs, dans ma chambre, j'avais un chapelet, je disais « Je vous salue ». J'étais sincère, mais j'étais perdu. Nous devons avoir des prières qui sont en communion avec Dieu. Nous devons prendre le temps d'être en communion avec Dieu, notre Père. Je me souviens un jour dans mon bureau, à Québec, à Beauport, exactement, une dame d'une quarantaine d'années qui est venue dans mon bureau et qui pleurait. Elle m'a dit, mon papa ne m'a jamais pris dans les bras. Mon papa ne m'a jamais dit qu'il m'aime. Waouh, c'est touchant d'entendre ça. Parce que le Père, c'est tellement essentiel. Et puis, quand on découvre Dieu, et mon cas, quand je me suis converti le soir dans ma chambre, Dieu m'a tellement rempli d'amour, il m'a dit, voilà, je suis un père d'amour. Waouh, ça a transformé ma vie. J'avais 19 ans. Dieu m'aime comme un père, et j'avais besoin de cela. Et quand nous nous adressons à Dieu, voyons, comme des enfants, allons à lui pour demander, c'est un père bienfaiteur, qui nous aime, on n'est pas parfait. On ne mérite rien. On ne vient pas dans la prière pour dire, Seigneur, j'ai lu ma Bible aujourd'hui, je mérite que tu m'exauces, je mérite que tu entends. Non, non. Tout est grâce. On est des pécheurs graciés. Au ciel, il n'y aura que des pécheurs graciés. Et si ce matin, quelqu'un ne connaissait pas encore la grâce de Dieu qui se manifeste, parce que Dieu vous aime comme un père, il a donné son Fils, afin que vous puissiez avoir le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Alors, est-ce que nous nous adressons à Dieu, rempli du Saint-Esprit? Car c'est certainement la prière inspirée par l'Esprit que Dieu exauce. Romains dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mon épouse et moi, on lit chaque matin 4 chapitres de la Bible. Ça fait des années, un verset chacun à haute voix. On suit le programme de lecture par an. On n'arrive pas à un an parce qu'on a toujours des déplacements ou des choses comme ça. Mais tout d'un coup, on s'arrête en lisant, on a à cœur de prier pour l'un, pour l'autre. C'est incroyable comment Dieu, si on est bien disposé, peut disposer le cœur à la prière pour prier pour des choses ou des personnes auxquelles on ne pense même pas. Et c'est bon signe, n'est-ce pas? C'est bon signe lorsque la prière est rafraîchissante ainsi. L'autre terme ici qu'on voit est « ne cesser d'adresser à Dieu ». Alors, le mot grec ici est très très fort. Dans la version Darby, littérale, l'assemblée faisait d'instants de prière. Et puis, la Bible Semeur dit « l'Église priait ardemment ». En fait, prier ardemment, c'est prier avec ardeur, comme dans une lutte. Et la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et c'est ce qui a mené à la délivrance, n'est-ce pas? Et le mot grec ici, je vous passe le mot grec, c'est un terme médical qui décrit l'étirement d'un muscle jusqu'à la limite. Autrement dit, cette prière de l'Église ici, en acte 12, ce n'était pas des petits mots là, c'était intense. C'était vraiment intense. Et dans un moment de réveil personnel ou d'Église, les gens prient vraiment avec leur cœur. Et ça se voit, ça se sent, et Dieu intervient malgré que nous sommes tellement pécheur devant Dieu, n'est-ce pas, mais gracié. La prière agissante du juste a une grande efficace. Est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce que vous croyez de tout votre cœur ce matin à la puissance de la prière? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu exauce la prière? Alors, bien-aimés, priez, prions. Ne cessons pas de prier. Persévérons. George Müller avait deux amis dans sa vie pour qui il a prié pendant 40 ans. Il y en a un qui s'est converti juste avant qu'il meure, donc il a vu la conversion de son ami. Et puis il y en a un autre qui s'est converti le jour de l'enterrement de George Müller. Mais il avait persévéré pendant 40 ans. Le mot ici, intense, parle aussi dans le grec, dans le Nouveau Testament, de l'amour intense, du service intense et de la prière intense. Être intense avec Dieu, c'est aimer intensément. Être intense avec Dieu, c'est servir avec intensité, avec tout le cœur. Et puis prier, c'est aussi prier avec intensité. Paul disait que dans les jours de sa chair, c'est l'Épître aux Hébreux, excusez, je sautais une ligne, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Lisez l'évangile de Jean, notez chaque fois dans l'évangile de Jean tous les versets où Jésus est dépendant de Dieu. Et là, je peux vous dire qu'on devient plus humble, parce qu'on a tous besoin d'humilité, n'est-ce pas? Hein? Tous besoin d'humilité, et de dépendance avec Dieu. Et Jésus, notre Sauveur, bien-aimé, sur la terre, s'est rendu toujours dépendant avec Dieu. Il passait des nuits en prière. Il m'est arrivé, je vous dis ça, bon, comme exemple, je ne sais pas vous, de prier toute une nuit. Il y avait un conflit quand j'étais à Beauport, je ne vais pas vous raconter mon histoire. Et j'ai dû prier toute une nuit parce que vraiment, je l'avais sur le cœur. Eh bien, j'ai prié pour un frère et j'avais vraiment besoin d'apprendre à l'aimer, à lui pardonner. Et Dieu a eu la victoire. Et un jour, ce frère est venu vers moi en larmes. En larmes. Dieu est puissant. Vous avez un sujet particulier où votre vie est peut-être bloquée. Vous aimez quelqu'un qui n'est pas sauvé dans votre famille, un collègue. Priez. Priez. Thoré a dit ceci en d'autres termes, la prière qui l'emporte auprès de Dieu est celle où nous faisons passer toute notre âme vers Dieu dans l'agonie d'un intense désir. Alors, j'ai eu 6 enfants, je l'ai déjà dit. Vous avez remarqué quand les enfants veulent quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils insistent pas mal, hein? Papa, maman, ils insistent. Ben, à un moment donné, nous parents, peut-être avec bon sens et à bon escient, avec bon sens, on cède à un moment donné où on donne, parce que, oui, quelque part, c'est justifié. Enfin, il faut le faire avec sagesse. Vous ne croyez pas que Dieu, notre Père, nous voit en train de prier? Il y a quelques années, bon, je priais, j'avais un fardeau sur le cœur. Dans la nuit, je prie des fois. Et je me plaignais devant Dieu. Ça vous arrive de vous plaindre devant Dieu? Moi, ça m'arrive. Je dis, Seigneur, écoute, là... Et vous savez ce qu'il m'a dit en plein milieu de la nuit comme ça? Michel, je sais. Je sais. Ça veut dire, Michel, tais-toi. Laisse-moi agir. Give up, laisse tomber, lâche prise. Je m'occupe de cela. Et c'est dur, hein, de laisser tomber. Vous avez remarqué comment on a du mal à lâcher prise? Juste laisser Dieu agir dans nos vies. Alors parfois, l'intensité de la prière amène le jeûne. Et on voit dans les Écritures que Daniel a jeûné intensément. En jeûnant, en prenant le sac et la cendre, je priais l'Éternel mon Dieu, basé sur les promesses de Dieu. On voit en acte 13 que Dieu a suscité la mission extraordinaire de Paul et Barnabas. Mettez-moi à part Paul et Barnabas, ils étaient en train de jeûner et prier. Et lorsqu'il y a des anciens établis, l'Église, Paul priait et jeûnait, il les recommandait devant Dieu. C'est une affaire spirituelle, l'Église. C'est une affaire spirituelle. Le troisième secret ici, c'est que c'est toute l'Église qui priait. Ne cessez d'adresser l'Église. Que c'est beau, l'Église. Une des choses les plus difficiles pour ma femme et moi qu'on a vécues, et de quitter notre église pour laisser la place à un jeune pasteur parce qu'on aime les gens. Ce n'est pas un péché d'aimer les frères et sœurs, non? Mais on s'est aperçu en changeant d'église, ah, c'est nouveau, mais l'église c'est une famille, on a nos amis, nos frères et sœurs, on a toute une historique ensemble, on a eu des combats, des peines, des joies, des larmes, des joies. L'église c'est de toute beauté, bien-aimés. Vous êtes dans une église, mais vous êtes chéris par Dieu et par les frères et sœurs. C'est extraordinaire. Dieu vous aime et les frères et sœurs vous aiment. Vous êtes privilégiés d'être dans une église où vous êtes libre de pouvoir proclamer l'évangile et vous aimer les uns les autres. J'aimerais vous raconter une histoire. Vous savez, les histoires, souvent on les retient. Moi, j'ai une dame dans l'église. Chaque fois qu'on faisait le groupe de maison où on résumait un peu la prédication, elle sortait toutes les illustrations du message, j'avais l'impression qu'elle avait oublié tout le reste. Mais bon, je vous donne quand même un exemple. On a une jeune femme qu'on a eue dans notre église où j'étais le pasteur, disons, une jeune femme qui est venue à la fin d'un culte frapper à la porte, j'étais dans le bureau, venait, elle regarde, elle me dit « J'ai besoin de la paix de Dieu. » Ah, entrez mademoiselle, j'ai appelé mon épouse. C'est une gagneuse d'âme, on s'est mis ensemble, alors que, racontez-nous, tout ça, elle s'ouvre, tout ça. Elle avait vraiment envie de se convertir. Alors, je peux le dire parce que, bon, vous ne la connaissez pas, elle vivait en concubinage avec un beau jeune homme, puis elle voulait la paix, elle voulait mettre sa vie en règle avec Dieu, donc, voilà. Et elle s'est convertie. Quelques temps après, son copain, je joue au tennis avec lui pour essayer de me faire tout à tous, et il est sympa, il parle de mariage, on dit à elle, tu sais... se marier à quelqu'un qui n'est pas converti, il réfléchit bien. Et puis, je rencontre ce jeune homme, et finalement, il me parle pendant trois quarts d'heure de sa foi catholique, sans jamais prononcer le mot de Marie. Je me suis dit, bon, c'est peut-être bon signe, sans jamais prononcer le nom de Christ. Et je l'écoutais, trois quarts d'heure, je me dis, Seigneur, mais comment lui annoncer l'évangile? Et finalement, en faisant un bout de papier, en dessinant une croix, tout simplement, je dis, voilà, toi, tu as fait une expérience avant la croix, vraiment. Tu ne m'as jamais parlé de Christ. Et sache que si tu passes par la croix, tu vas avoir la vie éternelle. Et il se convertit, c'était magnifique. Tu rentres à la maison fatigué, très tard dans la nuit, mais il n'y a pas de plus grande joie que d'amener quelqu'un au Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Ah, c'est beau votre amen, merci. Mais cette jeune femme, elle, ce couple est magnifique, nous les avons entourés pour leur mariage, nous les avons entourés pour leur baptême. Vous voyez, c'est des gens comme nos enfants. Et elle, au travail, tout d'un coup, un malaise. Elle va voir le médecin, elle dit « Ah, il te faudrait un deuxième malaise. » Bon, mais il va falloir faire un scanner. Finalement, la clinique lui dit « Il faudrait peut-être aller plus loin, un IRM. » Et là, on découvre qu'elle a une tumeur au cerveau. Elle va voir ma belle-fille, qui est directrice d'hôpital du CHU à Toulouse. Et elle avait un rendez-vous avec un neurologue deux mois plus tard, finalement. Ma belle-fille dit « Non, c'est urgent, il faut que tu vois tel docteur, je te prends un rendez-vous. » Elle l'a vu rapidement, merci Seigneur pour cela. Elle n'a pas attendu deux mois. Le médecin l'a vu et dit, écoutez, madame, vous devez être opérée. Je vous opère le plus tôt possible. Quand? La semaine prochaine. Et toute l'église était en émoi. C'est un cher couple, trois enfants, dont des jumeaux. Mon médecin m'a dit, avec cette tumeur, il y a peut-être six mois à vivre. Et je crois que dans ma vie, j'ai pu prier, mais avec le moment de l'onction d'huile pour cette dame-là, je peux vous dire que j'ai prié de tout mon cœur. Et je n'étais pas le seul. On priait que Dieu enlève la tumeur. On a prié que Dieu... ne permet pas que cette tumeur soit cancéreuse. Et finalement, la tumeur était diagnostiquée cancéreuse. Urgence d'opération. Mais cette dame s'est mise devant le Seigneur, devant toute l'Église. Elle a confessé ça et dit, on m'a dit que je pourrais perdre la mémoire, que je pourrais perdre la parole. Et j'ai trouvé un verset dans la Bible qui me dit que je louerai le Seigneur et j'adorerai le Seigneur encore. Elle a transmis toute cette foi. Et ils ont fait des séances de louange. Moi, le pasteur, moi-même, j'étais bouleversé. Et ils ont transmis ça dans toute l'église. Elle a été opérée. Et au milieu de l'opération, c'est le chirurgien qui raconte ça à ma belle-fille. Ils ont posé des questions pour qu'elle gagne la mémoire. Alors quel est ton nom, le nom de ton mari, le nom de tes enfants. Vous savez ce qu'elle a dit à un moment donné? Bon, vos questions, ça suffit. En pleine opération de la tumeur, là. Savez-vous que Jésus vous aime? Elle a dit ça, le chirurgien était allé le dire à ma belle-fille. Elle a dit ça, Jésus vous aime, il veut vous sauver. Jésus vous aime. Comme ça, toute l'équipe était sidérée. Alors après, le chirurgien a appelé sa patiente VIP de Madame Viguier, qui est ma belle-fille, n'est-ce pas, directrice d'hôpital. Les chirurgiens sont réunis, il y a tout un protocole après, évidemment, une opération avec une tumeur au cancer. Ils ont décidé qu'il n'y avait plus de traitement, pas de traitement nécessaire, que tout était guéri. Aucune métastase, rien. Alors Dieu exauce parfois de différentes façons. Puis elle aurait pu mourir, hein, son mari était prêt, mais Dieu a trouvé bon d'exaucer nos prières comme cela. Alors des fois, quand on prie, Dieu exauce d'une certaine façon. Le point que je veux souligner ici par cette illustration, c'est que toute l'Église aimait tellement cette jeune femme, s'est mise vraiment à prier. Le soutien moral et spirituel était grandiose. Et jusqu'à ce jour, elle va bien, elle a repris son travail. Merci Seigneur. Et c'est un miracle. Dieu peut guérir, évidemment, directement, comme il peut guérir de façon, n'est-ce pas, par les médecins, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Kirchhoff, un grand théologien allemand. Il a été invité à une méditation à 5 heures du matin en Corée du Nord pour exhorter l'Église. Alors, Corée du Nord, 5 heures du matin, on l'amène devant le bâtiment. Il dit, oh là, il n'y aura pas beaucoup de monde 5 heures du matin. Un bâtiment délabré, pas de fenêtre, il faisait mauvais, il pleuvait. Il dit, mais il n'y aura personne. Il rentre dans la salle, il y avait 5000 personnes en train de prier. Il priait pour pas que la Corée du Nord les envahisse. Et jusqu'à ce jour, la prière a été exaucée. Et là, il a compris une belle leçon. Lui, il avait préparé une méditation. Il a dit, non, mais là, j'ai appris plus que tout ce que je pouvais vous donner, etc. Vous savez, un jour, il y a un couple qui voulait aller entendre Spurgeon prêcher au Tabernacle. C'est une grande église à Londres. C'était des milliers de gens qui se réunissaient. Et puis, ils sont arrivés bien à l'avance. Puis, ils se sont dit, il n'y a pas de place, là. C'est bien quand il n'y a pas de place dans l'église. Hein. Il faut prier que Dieu remplisse vos sièges, là. D'accord ? Par la grâce de Dieu. C'est lui qui le fait, bien sûr. Il n'y a pas de présomption. C'est Dieu qui sauve, on comprend. Alors ils arrivent et puis voient un monsieur au fond de la salle et dit bonjour, bonjour. Et alors le monsieur dit, bon, vous venez visiter ? Oui, oui. Ah, ben si vous voulez, je vais vous faire visiter l'église. Ah, comme c'est une grande église, on dit, ah, ben c'est bien, il nous fait visiter l'église. Et finalement, il leur dit, je vais vous faire visiter la chaudière de l'église. Ils ont dit, Dieu, c'est bizarre ça. Bizarre, ça doit être le concierge de l'église. Là, il nous fait visiter la chaudière. Bon, pourquoi ? Maintenant, il ouvre les portes et il y avait 2000 personnes en train de prier. Il dit, c'est ça la chaudière, l'église. Le fameux concierge, c'était Spurgeon lui-même. Il n'y a pas de succès d'église sans qu'il y ait la prière bien-aimée. Alors, pour conclure, regardons ensemble les résultats. Et j'avais des applications pour chaque résultat, mais on n'aura pas le temps de voir ça ce matin. Mais brièvement, si on peut passer la prochaine diapo, si vous me permettez. Pierre a été délivré. C'est un miracle, n'est-ce pas ? Les chaînes enlevées, les portes qui s'ouvrent. Il ne sait même plus si c'est réel, s'il rêve, etc. Lui, il dormait en plus. Je ne sais pas comment il pouvait dormir. Moi, je fais plutôt l'insomnie la nuit, mais lui, il dormait même en prison. Il y a la joie de l'Église, mais c'est extraordinaire. Quand la prière est exaucée, mais il y a de la joie. On partage nos sujets. Dieu m'a exaucé. Amen. Il y a la confusion dans le camp adverse. Ce qui paraissait un obstacle, mais incroyable, la hauteur de l'Himalaya est complètement aplatie. Il y a confusion. Et finalement, il y a le jugement de Dieu sur Hérode, qui typifie, à mon avis, le jugement des grands de ce monde, n'est-ce pas, qui sont opposés à Dieu, qui font l'œuvre de Satan. Et puis, acte 12, 24, on voit, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Et puis finalement, le plan de Dieu concernant la mission de Paul et Barnabas continue. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. On ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Notre Dieu est plus puissant que Satan. Et s'il y a des obstacles à franchir, alors croyons de tout notre cœur, réunissons-nous dans la prière et prions vraiment de tout notre être. Dieu, dans sa présence, avec intensité, comme s'il ne pouvait pas refuser. Et réunissons-nous, parce qu'une église unie fait peur au diable. Une église unie dans la prière est puissante. Et c'est certainement la première chose que Dieu nous demande, c'est de prier. Amen. Merci de votre écoute et on va juste prier un instant. Père, tu nous rappelles de prier ce matin. Fais-nous des disciples de prière pour ta gloire. Amen. Bénis cette église dans la prière, Père, et bénis-nous chacun. Amen.